Ce soir, enquête sur un futur Eldorado, la francophonie. Et oui, qui l'eût cru, il y aura peut-être 800 millions de francophones dans les années 2050. Un gigantesque marché économique dans de multiples secteurs.
En matière économique, évidemment, en matière de croissance, en matière d'emploi, en matière d'influence culturelle, économique, géopolitique, stratégique, voire militaire.
France Inter, secret d'info, Mathieu Aron.
L'histoire retiendra que c'est sur les rives brûlées de soleil d'un des grands fleuves africains, le Niger, et dans la capitale d'un des États les plus déshérités du continent noir. L'histoire retiendra qu'à Niamey, en mars 1970, un concept agité, remué depuis de longues années, la francophonie, a trouvé enfin sa forme concrète. Avant jeudi, en effet, les quelques 25 délégations...
Et si la francophonie, ce concept né donc dans les années 70, qui pendant longtemps, il faut le dire, a été considéré comme assez ringard, était en passe de devenir une véritable mine d'or. En effet, le nombre de francophones, contrairement à ce que l'on croit parfois, va exploser dans les prochaines années. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir Mathieu.
Vous avez enquêté sur cet espace francophone qui aiguise bien des appétits.
Et oui Mathieu, parce que comme vous allez l'entendre, il ne s'agit plus vraiment seulement d'un espace linguistique, mais d'un véritable marché en devenir. Et pour avoir une idée un peu plus précise, je suis allé voir Yves Bigot. Yves Bigot, c'est le patron de TV5 Monde, l'opérateur historique de la francophonie.
Fin 2014, on avait 275 millions de locuteurs francophones sur l'ensemble de la planète, hein, répartis sur les 5 continents, parce que le français est une des langues qui est sur les 5 continents. Je crois que c'est la seule avec l'anglais d'ailleurs. Les projections montrent qu'on arriverait à 400 millions en 2025 et, selon les projections, entre 700 et 800 millions en 2050. Ça dit tout en matière économique, évidemment, en matière de croissance, en matière d'emploi, en matière d'influence culturelle, économique, géopolitique, stratégique, voire militaire.
Et les chiffres dont parle Yves Bigot, ils pourraient même encore être plus importants, Claude Guibal.
Oui, d'autant que certains vont même jusqu'à parler d'un milliard de francophones d'ici 50 ans. Alors ça, c'est vraiment une vision XXL de la francophonie, mais dont le développement, selon Yves Bigot, ne se fera pas partout pareil.
Il ne faut pas se raconter d'histoire. Les chiffres qu'on se donne sur la francophonie, c'est qu'aujourd'hui, sur les 275 millions, il y en a à peu près 100 millions qui sont au nord, et le reste est au sud. Mais en 2050, il y aura toujours 100 millions au nord. Il n'est pas prévu que notre démographie augmente. On redoute même dans un certain nombre de pays qu'elle ne soit en recul. Mais en revanche, c'est en Afrique qu'elle va totalement exploser. Donc l'avenir de la francophonie, il n'est pas en France, il n'est pas au Canada, il n'est pas au Liban, il n'est pas au Vietnam, il est en Afrique.
L'avenir de la francophonie est en Afrique, et ça, il y en a qui l'ont parfaitement intégré.
Oui, ce sont les Chinois qui n'ont pas hésité à lancer une chaîne d'infos en français. Écoutez.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'Afrique Info sur CCTV français, en direct de Beijing.
Vous avez bien entendu une chaîne chinoise qui émet en français depuis Pékin, à destination de l'Afrique.
Alors ça paraît quand même assez incroyable, mais si la Chine, Claude Guibal, a lancé cette chaîne, c'est bien dans le cadre, il ne faut pas se le cacher, d'une stratégie d'influence.
C'est parce qu'en 2009, en fait, la Chine, elle est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Or, avec la crise, les choses se sont gâtées. L'an dernier, les investissements ont baissé de 40%. Les Chinois, très bien accueillis au début, le sont donc un petit peu moins aujourd'hui. Ils ont besoin, maintenant, de redorer leur image.
Pendant longtemps, la Chine a pensé que, n'étant pas impérialiste au sens occidental du terme, c'est-à-dire elle n'est pas là en train de ni de se mêler réellement des affaires politiques locales tant qu'elle ne menace pas ses intérêts, ni même de mener des guerres, elle serait aimée naturellement. Or, on voit bien, et en particulier en Afrique, que la déferlante des investissements et de la présence chinoise ne va pas sans grincement de dents, qu'il y a des pays, par exemple en Zambie, où il y a eu des grèves contre des investisseurs chinois, au Sénégal, la concurrence dans le petit commerce, etc. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui de se faire apprécier et de se faire apprécier différemment des Occidentaux.
En effet, car cette chaîne chinoise en français, CCTV, elle n'émet pas qu'en Afrique, elle est diffusée partout dans le monde.
Oui, parce que les ambitions chinoises, elles ne s'arrêtent pas à l'Afrique. Ce pays qui est devenu la première puissance économique mondiale, il a longtemps pensé le monde à l'intérieur de ses frontières. Aujourd'hui, il s'ouvre plus largement et il entend le faire savoir.
Nous ouvrons ce journal avec la visite officielle du président chinois au Moyen-Orient. Un commentateur a beaucoup salué les 5 jours de visite d'État du président chinois Xi Jinping au Moyen-Orient, déclarant que la semaine de travail apporte énormément de confiance dans la région qui était si instable auparavant.
Certaines zones du Moyen-Orient sont engagées dans des guerres, mais le président Xi Jinping a parlé de coopération économique et de communication culturelle avec eux. Cela montre que la Chine souhaite aider à créer des relations gagnant-gagnant avec tous les pays concernés.
On a bien entendu, le Proche-Orient est désormais apaisé puisque le président chinois est venu apporter la bonne parole.
C'est vraiment, comment dire, une vision toute pékinoise du monde. Pas très surprenant cependant, selon Pierre Aski.
CCTV en français, c'est millimétré. Il n'y aura pas un mot de travers, il n'y aura pas une phrase qui peut déplaire à un commissaire politique. Au bout de 3 secondes, on sait qu'on est dans une chaîne chinoise et on sait à quoi s'attendre.
Tout est dit, hein. La Chine a beau essayer de changer son image, de développer son agence de presse internationale, Chine Nouvelle, eh bien la Chine, ça reste la Chine, avec ses codes. CCTV, par exemple, n'a jamais donné suite à nos demandes d'interview, elle ne communique pas plus sur ses audiences.
Cela dit, la Chine n'est pas loin s'en faut le seul pays à essayer d'influencer la sphère francophone en lui apportant son regard sur le monde.
Non, car un autre regard sur le monde, c'est aussi l'objectif affiché d'une petite nouvelle. Elle s'appelle I24 News, I comme Israël.
Manuel Valls juge inadmissible les violences qui ont éclaté au cours de la grève des taxis dans la matinée. Le Premier ministre a reçu à Matignon une délégation de chauffeurs de taxis qui protestent contre la concurrence des véhicules de transport avec chauffeurs. Une Israélienne succombe à ses blessures. Une semaine après les funérailles de Daphna Meir, Shlomit Krigman, 24 ans, a été poignardée à mort par 2 Palestiniens. Une autre Israélienne est-elle toujours hospitalisée à Jérusalem ?
I24, c'est donc une chaîne, on l'a compris, en français, qui traite de l'actualité mondiale ou française et qui est basée en Israël.
I24, ce sont même 250 personnes réparties en fait entre 3 chaînes d'infos, en français mais aussi en arabe et en anglais. Et je vous propose en compagnie de notre confrère Frédéric Martel, qui décrypte chaque semaine les stratégies d'influence sur France Culture, de faire la visite d'I24.
C'est un immense studio dans des anciens entrepôts sur le très très beau port de Jaffa, un port d'ailleurs dans une zone en partie arabe, arabe-israélienne au sud de Tel Aviv. Quand on est là, c'est assez étrange puisque on rencontre des gens qu'on connaît. En fait, il y a beaucoup de journalistes français qui ont été recrutés par cette chaîne israélienne. Je pense que les Israéliens ont la subtilité, comme souvent les Américains aussi, de faire une chaîne d'information. Et c'est là qu'on en arrive au soft power. Le soft power, c'est quoi? C'est comment influencer, comment faire de la propagande, on peut dire, mais d'une manière douce, d'une manière intelligente, à la marge, peut-être plus subtile. Les Israéliens, de ce point de vue, me paraissent bien, bien plus efficaces que les Chinois, qui continuent à penser le soft power comme un hard power. C'est-à-dire, on fait du doux, on fait de l'information, on fait de la communication, on fait des médias, de la culture, mais en même temps, ça reste de la propagande.
Alors, propagande, ça, c'est un mot que n'aime pas du tout, mais alors pas du tout le directeur des rédaction d'I24.
Et ce directeur, c'est quelqu'un que l'on connaît bien, c'est Paul Amar. Paul Amar, l'ancien présentateur du JT de France 2. Et pour Paul Amar, I24, non, ça n'est pas de la propagande.
Je dirais qu'I24 propose une information différente. Sur le Proche-Orient, un peu plus complète. C'est tout ce que je dis. Quand j'entends, par exemple, sur France Inter, tiens, une brève ce matin, disant que échange de tirs entre le Hezbollah et Israël, après la mort de Samir Kounta, qui était tué par une frappe israélienne en Syrie. Voilà ce que j'entends. C'est une brève qui est donnée, et je comprends que ce soit qu'une brève. Si je présentais le journal de France Inter à 8h ou à 7h, je dirais exactement la même chose. Mais I24 a proposé une information supplémentaire. Le fait, nous, d'être là-bas, nous permet de dire que cet homme qui a été tué lors d'une frappe israélienne en Syrie est un homme qui, est un jour, il y a quelques années, est allé à Naharia, a enlevé un homme, un civil, l'a tué dans le dos et a fracassé sa petite fille de 4 ans contre un mur et l'a tué. Cet homme, il a commis d'autres attentats depuis. Cette information supplémentaire, nous on la donne parce qu'on la connaît.
Une connaissance du terrain incontestable, c'est sûr, et un regard incontestablement très israélien. Exemple, sur I24, on ne parle jamais de colonie, un mot très connoté, mais plus pudiquement d'implantation.
Question, Claude Guibal, est-ce que cette chaîne est ou non regardée?
Alors ça, c'est très difficile de le savoir. Si on écoute Paul Amar, oui. Mais selon un document interne révélé dans une enquête de l'Obs, les audiences sont très faibles, en dessous de 0,1 de part de marché en France. Seule certitude, AI24, on n'aime pas communiquer sur tout, car le financier d'I24, c'est un homme dont on parle beaucoup, mais qui n'aime pas beaucoup qu'on parle de lui. C'est le milliardaire franco-israélien Patrick Drahi, le nouveau tycoon de la presse, le propriétaire de Libé, de l'Express. Et c'est bien d'ailleurs ça qui fait la différence avec ses concurrentes francophones. I24, ce n'est pas une chaîne d'État, mais bien une chaîne privée.
En tout cas, l'ambition de I24 est très clairement affichée. Il s'agit d'être un contre-pouvoir d'Al Jazeera. Alors ce que l'on entend, Claude, c'est Al Jazeera mais en anglais. Al Jazeera est mais aussi en bosnien. Elle développe des programmes en turc, en swahili, mais toujours pas en français.
Pourtant, c'est pas faute d'en avoir entendu parler du lancement imminent d'une Al Jazeera en français. C'est vrai que après CNN, Al Jazeera c'est quand même la chaîne de télé qui incarne le plus la conquête de l'influence via les médias. C'est bien grâce à Al Jazeera que le Qatar, un émirat confetti, a finalement réussi à étendre de façon considérable son influence dans le monde arabe.
Quitte d'ailleurs à utiliser des moyens controversés, on se souvient, après les attentats du 11 septembre 2001, Al Jazeera, c'était là où étaient diffusées en exclusivité les cassettes d'Al-Qaïda avec les messages de Ben Laden.
Oui, Al Jazeera, c'était vraiment l'idée de dire, nous, on n'est pas CNN, on vous montre ce que les médias occidentaux vous cachent, d'où, bien sûr, cette inquiétude il y a 3 ans. Lorsqu'un officiel qatari confirme la rumeur qui court, la chaîne s'apprête à ouvrir une antenne en français. À Paris, à ce moment-là, on se met à rénover les bureaux, on parle de recrutement, et puis, plus rien. Emmanuel Razavi est journaliste, il a travaillé pour la télévision du Qatar, dont il dirigeait les unités documentaires.
Lorsqu'ils ont pensé ce projet, en réalité, ils voulaient monter un projet qui permette d'avoir un regard arabe sur le monde en français. La problématique à laquelle ils ont fait face, c'est qu'apparemment, en France également, l'Élysée a fait comprendre à l'Émir qu'il n'était pas souhaitable qu'une chaîne en français se crée parce que d'office, elle aurait pu concurrencer également en fait France 24. C'est quand même une réalité. Les Qataris, bizarrement, sont sans complexe lorsqu'il faut faire de la stratégie d'influence, sont aussi, je dirais, d'habiles diplomates. La France est un allié du Qatar. La France vend des avions au Qatar, la France a vendu pendant longtemps des armes au Qatar, on a des accords de coopération avec eux sur différents plans. Et je crois que l'émir ne voulait pas prendre le risque de se mettre à dos la France, tout simplement, dans une période d'ailleurs où il y avait énormément de Qatar bashing en France.
Alors plus on avance dans votre enquête, Claude, plus on s'aperçoit que ces chaînes, c'est peut-être de l'info, mais c'est aussi et même surtout de la diplomatie et de la politique.
Oui, et pour preuve, après Nicolas Sarkozy, François Hollande n'a pas plus souhaité que Al Jazeera se fasse en français. Il faut dire qu'à cette époque, des soupçons pèsent en effet sur le Qatar, qu'on accuse de soutenir les islamistes Normalie. À Paris, on n'est pas du tout content, on le fait savoir et prudemment, le Qatar lâche l'affaire. Aujourd'hui, il a bien une chaîne en français, mais uniquement consacrée au sport, c'est Bein, quitte à se remettre en selle, on l'imagine bien, lorsque les conditions seront plus propices.
Alors, on a vu, il y a les Chinois, il y a les Israéliens, il y a les Qataris, mais d'autres se lancent aussi à la conquête de la francophonie. Ce sont les Russes et ils sont très en pointe dans la guerre de l'information.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Dévoiler ce dont les autres ne parlent pas, c'est ce que revendiquent les Russes à travers donc cette radio Sputnik. Et maintenant, via une télé diffusée sur le web, Russia Today, RT en français, c'est la voix de Moscou, comme le reconnaît sans détour le directeur de cette chaîne en français, Irakli Gachechiladze.
La mission de RT, c'est bien sûr de diffuser la position russe. Et d'ailleurs, c'est une position qui manque dans les médias. La Russie est souvent diabolisée, souvent simplifiée. La Russie a sa vision du monde. La Russie joue un rôle qui ne peut pas être nié. C'est un rôle très important, je dirais, vu le nombre de dossiers où la Russie est impliquée actuellement. Et donc, bien sûr, RT, c'est un média russe financé par le gouvernement. On ne le cache pas.
Alors pour le coup, on ne peut pas leur enlever cela, les Russes, ils ne se cachent vraiment pas.
Ouais, c'est vrai Mathieu que quand on regarde finalement le traitement de l'Ukraine, hein, par exemple par RT, c'est quand même exactement l'inverse de ce qu'on entend en général dans les médias français. Sur la Syrie, c'est pareil, RT est donc accusé de faire le jeu de Damas, pour autant son directeur se défend d'être l'avocat de Bachar el-Assad.
Si on regarde les documentaires que nous avons diffusés, on va voir qu'on n'a jamais dit que Assad, démocrate, qui est un réformateur, qui est quelqu'un qui gouverne bien le pays, c'est pas ça le cas. Nous avons posé les questions dès le début en Syrie en demandant si tous ceux qui se battent contre Assad et le gouvernement actuel, s'ils sont tous vraiment l'opposition civile, si ce sont vraiment des démocrates, Al-Nusra c'est qui ? On a commencé de parler de la présence des djihadistes en Syrie bien avant notre confrère. Et ça a été vu au début comme le soutien pour les dictateurs.
Des documentaires sur la Syrie, sûrement très intéressants, mais la vraie valeur sûre sur RT, c'est Vladimir Poutine.
Oui, sachez-le Mathieu, les vidéos des discours de Poutine, eh bien, ça marche, Poutine. Avec son image d'homme fort, ses déclarations choc, ses terroristes qu'il faut buter jusque dans les chiottes, Poutine qui fascine, il faut le dire, notamment à droite de l'opinion publique française.
Mais pour faire du clic, il n'y a pas que Vladimir Poutine. Russia Today, RT donc en français, diffuse aussi des vidéos assez dures.
Hein. Ouais, des vidéos brutes en fait, des vidéos de conflits par exemple, de catastrophes naturelles, mais qui sont sans montage, pas expurgées. Du coup, on peut y voir des cadavres, enfin ce sont des images soc. Et la chaîne n'hésite pas non plus à flirter avec le complotisme. Ça, c'est l'avis de Julien Nocetti. Il est chercheur à l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Il est spécialiste de la Russie.
Le but pour RT, c'est, je dirais, d'effacer toute distinction entre vérité et mensonge. Ce qui peut expliquer aussi la profusion sur RT des théories du complot, par exemple de reportages qui contestent la version officielle du 11 septembre, d'articles qui, très très récemment d'ailleurs, avancent une chute prochaine de la maison des Saoudiens en Arabie Saoudite, ou des choses comme ça. Voilà. Donc, il y a une profusion vraiment des théories conspirationnistes qui, à mon avis, est un des marqueurs de RT aujourd'hui.
Et dans la même gamme, hein, RT aime aussi donner l'antenne aux personnalités qui dérangent.
RT, oui, a déjà confié une série de reportages à Julian Assange, monsieur Wikileaks. Il a interviewé pour elle, par exemple, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah libanais. Et en France, pour la COP21, RT eh bien, est allé confier une chronique quotidienne à Philippe Verdier. Philippe Verdier, c'était le monsieur météo de France Télévisions qui avait été viré quelques semaines plus tôt de la télé française après la parution de son livre jugé climato-sceptique. Philippe Verdier, qui n'a pas hésité à travailler pour la version française de Russia Today, même si c'est une chaîne d'État russe.
Vous savez, précédemment, j'ai travaillé sur le service public dont l'actionnaire est l'État français. Donc, pour moi, ça ne me pose absolument pas de problème dans la mesure où je peux continuer à faire mon métier de journaliste librement et où je ne sens pas de pression quand je m'exprime. Il se trouve que j'en ai senti une, elle a été très forte au point que j'ai été viré de France Télévisions. Là, je n'ai pas senti cette pression pendant mes deux semaines de collaboration avec Russia Today.
Et on peut noter que 50 000 personnes ont visionné la première chronique de Philippe Verdier sur RT.
Oui, ça fait quand même un joli petit succès d'audience, car vraiment là, il faut dire que les Russes ont une culture numérique probablement bien plus novatrice que la nôtre. Ils ont compris comment il fallait devenir viral sur Internet. RT en français, eh bien, elle espère faire aussi bien que RT en anglais, qui serait aujourd'hui sur YouTube, la chaîne d'information la plus consultée au monde, du moins, c'est ce que disent les Russes.
Et c'est donc un redoutable outil pour propager la pensée russe.
Oui, c'est la volonté, hein, finalement, de véhiculer un certain nombre d'idées, de valeurs. Alors ça, les Russes le font, les Israéliens le font, les Chinois le font, et les Français, eux, ils ne sont pas en reste, ce qu'assume parfaitement le directeur de France 24, Marc Saïkali.
Nous avons un regard sur l'actualité qui est spécifique à nous. On a notre ligne éditoriale qui est fixe et qui est simple. Liberté, égalité, actualité, c'est notre slogan. Et donc, nous cherchons à promouvoir les valeurs de tout ce qui concerne la dignité humaine. On ne montre jamais des prisonniers en situation infamante. Les droits humains, l'égalité homme-femme, la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, sous tous leurs aspects. Et de toutes les manières, avec une rédaction composée de 35 nationalités, on a une ouverture d'esprit et un esprit critique qui se développe à propos de tous les sujets, qui est de facto dans notre quotidien, de par les différents visages, les différentes origines, les différentes idées et la façon de penser de nos salariés, tout simplement.
Alors France 24 revendique une audience mesurée de 46 millions de téléspectateurs chaque semaine sur 64 pays. Dans la bataille donc pour l'info en français, France 24 caracole très largement en tête pour le moment, car en plus des Russes, des Chinois et des Israéliens, la BBC et CNN envisageraient de s'y mettre à leur tour. Mais là, la course ne fait que commencer, Mathieu.
Merci beaucoup, Claude Guibal, pour cette enquête sur la francophonie qui est à retrouver sur notre site internet franceinter.fr et sur la page Facebook de Secret d'Info.